RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage. Aujourd'hui, en Sierra Leone, le pays entre à nouveau dans la saison des pluies. Et 9 mois après le glissement de terrain combiné à des inondations de grande ampleur qui avaient fait plus d'un millier de morts dans la capitale, les survivants à Freetown restent démunis. La ville n'est pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe. Freetown, la plaie ouverte et la pluie qui vient. C'est un grand reportage signé Carole Palade.
La colline a explosé, des pierres ont volé dans tous les sens. L'une d'entre elles a tué 3 ouvriers dans cette maison.
Le sol tremblait
de toutes parts. J'ai pensé c'est la mort. Je ne comprenais rien à ce qu'il se passait.
Nous avons réussi à sortir de la maison. Tout le voisinage était recouvert par la boue. Puis, nous avons entendu le grondement du torrent qui dévalait la colline. On s'est mis à courir aussi vite qu'on pouvait sous une pluie battante.
Ce jour-là, le 14, à 6h45, nous avons eu le premier choc, car il y a eu 3 événements en un. Le tremblement de terre, les inondations et le glissement de terrain. Ces 3 désastres nous ont touchés en même temps. J'ai perdu ma maison, mon fils de 17 ans, et la plupart de mes hommes, 19 d'entre eux, ainsi que leurs familles. Ce n'est pas ma sagesse ou mon habileté qui m'a sauvé, mais Dieu le Tout-Puissant.
Regent, région rurale de Freetown. Devant nous, le Sugarloaf, le pain de sucre comme le nomment les habitants. C'est le point culminant des Peninsula Mountains. Son versant, recouvert d'un épais tapis végétal, est aujourd'hui fendu de haut en bas par une longue plaie de couleur ocre, comme si de son ongle, un géant venait de griffer la montagne. On soulève le mince ruban de plastique rouge et blanc pour accéder à la no-go zone. Saruman est chef de chantier. La nuit du drame, ses 4 ouvriers ont été emportés par un torrent de boue. Un peu en contrebas, il désigne un morceau de matelas émergeant des décombres.
C'est leur matelas. C'est là qu'ils dormaient. Quand je le vois, ça me fait mal. Il est encore là. Moi, je m'étais levé pour aller aux toilettes. Je faisais le tour de la propriété. J'ai voulu ouvrir la porte pour faire sortir l'eau, mais je me suis retrouvé submergé, piégé à l'intérieur. Quand j'ai finalement réussi à ouvrir la porte, c'était trop tard. Mes camarades étaient tous morts.
Le chantier était presque terminé. Dans le hall, un lustre oscille au gré du vent, des miroirs brisés, une colonne qui tient miraculeusement en équilibre. La façade est littéralement coupée en deux. On y pénètre par un trou béant.
Là, on devait mettre une porte pour accéder aux chambres. Là, il y avait une autre véranda. Attention, vous mettez les pieds. Ici, c'est l'escalier vers le 2e étage.
On avance de pièce en pièce. Partout, les murs recouverts de boue témoignent de la violence du désastre. Saruman s'arrête devant un amas de terre.
J'ai trouvé des corps. J'ai essayé de déblayer cette partie, mais en remuant la terre, j'ai trouvé des ossements, des crânes humains. Je me suis blessé et j'ai dû prendre un traitement antibiotique. Alors j'ai arrêté de creuser.
Combien sont-ils ensevelis sous cette terre? Impossible de le savoir. Ici, à l'hôpital de Connaught, les cadavres n'entraient plus dans la morgue. Un rapport de la Banque mondiale fait état de 1141 morts. Il y en aurait plus, selon Aboubakar Camara, président de la communauté de Regent.
Les médias ont dit qu'on avait trouvé 500 corps, mais c'était juste un message, vous comprenez? Il y a plus de 3000 personnes qui gisaient là-dessous. Et je dis plus de 3000 car je ne parle pas des enfants. Je le sais car nous avons les chiffres du recensement communautaire que nous venions juste d'achever.
John Rogers, directeur du département de gestion des catastrophes au bureau de la Sécurité nationale, reste prudent.
Cela a été un véritable défi de compter les disparus, car plusieurs zones ont été touchées. 6 communautés différentes touchées par le désastre, l'épicentre, Regent, les zones inondées. D'autant qu'avec le courant, des corps ont été déplacés. Nous n'avons donc pas pu établir un nombre précis de disparus. Au moment du désastre, l'urgence était de mettre les survivants hors de danger. Ils ont été enregistrés dans un centre d'urgence pour déterminer leur nombre, avant de les amener dans 2 camps établis à Old School et à Djouba.
D'autres survivants sont recueillis par une ONG catholique, le centre Don Bosco, qui réinsère d'habitude les enfants des rues. 270 femmes et enfants vont y séjourner pendant 4 mois. Emmanuel Adja est le vice-directeur du centre.
Nous avons dû déployer des efforts et faire venir des psychologues et des thérapeutes pour qu'ils acceptent enfin que oui, cela est arrivé. Il faut remercier Dieu de nous avoir laissé la vie et cette vie doit continuer. Mais cela est un processus qui prend du temps. Tu n'es pas obligé de tout oublier immédiatement. Il y avait un processus de guérison qui suivait son cours. Et puis, il y a eu ce jour, cette nuit plutôt, lorsque la pluie a commencé à tomber de manière très violente. Oh mon Dieu, c'était vraiment quelque chose. La pluie a commencé vers 11h jusqu'à 3h du matin. Ils étaient tous en train de hurler, de crier, de pleurer. Ah, c'était tellement triste et tellement douloureux. Tu sais, on a essayé de les calmer, mais c'était impossible. Il fallait juste les laisser pleurer.
Mi-décembre, les familles doivent quitter le centre, mais Emmanuel Adja garde le contact. Il nous présente Manteneto Anka.
Là, je suis chez mon oncle, mais c'est temporaire. Ce que l'on m'a donné quand j'ai quitté Don Bosco ne me permet pas de payer un loyer. Avant, j'avais un petit étal où je vendais du riz, de l'huile de palme et des ustensiles de cuisine. Mais l'eau a tout emporté, il n'y a plus rien. Maintenant, je n'ai pas d'argent pour relancer mon activité et subvenir aux besoins de ma famille. J'attends que le gouvernement me donne l'argent qu'il a promis pour reprendre ma vie.
Comme elle, près de la moitié des victimes ont perdu toute source de revenus, selon l'ONG Street Child. Concrètement, l'État s'engage sur 2 plans, le relogement des victimes et leur indemnisation. John Rogers, du Bureau de la Sécurité nationale.
Un programme de transfert d'argent a été mis en place. En tout, 3000 chefs de famille se sont enregistrés. La somme totale perçue représente plus de $700. Mais on leur a fait signer une lettre par laquelle ils s'engagent à ne pas revenir dans les zones sinistrées. S'ils acceptent, alors le transfert est débloqué. La plupart d'entre eux ont touché l'argent, plus de 95% d'entre eux.
Les bénéficiaires rencontrés n'avaient touché que les 2/3 de la somme promise. Hors micro, un employé de l'ONG Don Bosco affirme qu'un quart des familles suivies par l'organisation n'ont rien reçu. Margaret Camara, elle, est restée tout près des lieux du drame, elle n'avait pas le choix et vit aujourd'hui dans un dénuement extrême.
Nous avons besoin d'aide. Le gouvernement a promis de nous reloger, mais rien ne vient. Maintenant, ils nous disent peut-être dans 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on va devenir d'ici là? Où est-ce qu'on va aller? Si vous ne me croyez pas, venez voir à l'intérieur, venez voir comment nous vivons. On ne vit pas, on survit. Vous voyez le matelas sous les sacs? C'est là que je dors avec un petit. Les autres dorment sur le sol. Lorsqu'il pleut, l'eau rentre à l'intérieur. C'est un ami qui me prête cet endroit pour 3 mois. Mais maintenant, je dois partir car je n'ai pas l'argent pour le payer.
La pièce fait 5 à 7 mètres carrés. Pour seule toiture, de la tôle fissurée. Les murs sont en carton. Pour faire dormir 7 personnes, il faut empiler les sacs et se serrer les uns contre les autres. Aucune promesse de relogement n'a été faite aux victimes interrogées. John Rogers de l'ONS affirme pourtant qu'un programme est à l'étude.
Nous avons mené un projet expérimental dans un lieu appelé Mile 6, où après les inondations de 2015, il a été décidé de réinstaller les victimes. C'est juste après Waterloo qui se trouve à 34 km de Freetown. Ce projet est terminé. À l'heure où nous parlons, les populations les plus vulnérables sont en train d'être identifiées pour entrer dans ces logements. Mais le gouvernement voit plus grand et prévoit de construire plus d'un millier de logements à cet endroit.
Trop cher, trop éloigné de la ville, ces 52 logements seront-ils un jour occupés ? Dans la capitale, la pression foncière est telle que les autorités peinent à y répondre, explique Ibrahima Koroma du Centre de recherche en urbanisme de Sierra Leone.
Pendant la guerre civile, il y a eu un flux énorme d'arrivées à Freetown et cette population n'est jamais repartie. Depuis, la ville ne cesse de croître car c'est la capitale administrative et économique du pays. Ajoutez à cela l'exode rural, en ce moment, on est à plus de 3% de croissance. Il faut dire que le contexte géographique ne nous facilite pas les choses. D'un côté, vous avez la mer, de l'autre, la montagne. Donc forcément, les gens sont obligés de s'installer toujours plus haut en détruisant la forêt.
Son collègue, Joseph McCarthy, est également co-directeur du centre.
Cette catastrophe est tout sauf un accident. Plusieurs organisations ont écrit là-dessus, il y a eu des recherches, des articles de presse, pour alerter sur le fait que nous sommes assis sur une poudrière. La péninsule était autrefois entièrement recouverte par la forêt. Depuis 10 ans, les hommes s'installent chaque jour plus profondément dans les terres. Mais comme nous n'avons pas prêté attention aux signes avant-coureurs, nous en sommes arrivés là. C'est triste à dire, mais nous l'avons vu venir. Et nous n'avons rien fait. Tant qu'on continuera à pénétrer plus loin dans la forêt, tant qu'on coupera les arbres, tant qu'on ne prêtera pas attention à l'urbanisme, à l'architecture, à l'évacuation des déchets, tant que l'on continuera avec ces vieilles pratiques, ce genre d'événement se reproduira. C'est inévitable. La question est juste de savoir quand.
D'ici, vous pouvez voir que toute la colline jusqu'à la crête est abîmée. Vous voyez des trous dans la végétation. Les gens tentent de construire sur les pentes.
Témoin privilégié de ce phénomène, Bala Amarasekaran est le fondateur du sanctuaire pour chimpanzés de Takugama, tout près de Regent, et cela fait plus de 10 ans qu'il combat la déforestation.
Par la végétation, par les espèces menacées qui s'y trouvent, les plantes rares, cette forêt est un hotspot de la biodiversité selon les scientifiques. La situation est dramatique, car c'est une chose de faire des lois, de déclarer des zones protégées, des parcs nationaux et tout ça, mais si vous n'avez pas les mécanismes pour les protéger, ça reste uniquement sur le papier. Notre principal problème, c'est la cupidité humaine. La course à la terre, l'empiètement sur des terrains protégés, les gouvernants qui parfois n'ont pas la volonté politique de faire appliquer la loi. Car il faut rappeler que les lois sont là, elles existent, mais elles ne sont pas appliquées. C'est pour cela que les gens continuent de faire ce qu'ils veulent. Et comme vous le savez, la corruption est partout. Mais pour autant, tout n'est pas perdu. La forêt peut encore être sauvée. On a probablement perdu entre 10 et 15% de la ceinture du parc, mais il est encore temps de faire quelque chose.
Il n'est pas trop tard, mais le temps presse car la saison humide a déjà commencé. Sur les collines fragilisées de Freetown, des pluies diluviennes s'abattent chaque année de mai à septembre, comme l'explique Patrick Moussa de l'agence de météorologie.
Avant, nous avions 6 mois de pluie et 6 mois de saison sèche. Mais avec le changement climatique, on commence à avoir des pluies dès le mois de mars. Le jour du désastre de Regent, il avait plu de façon continue pendant 4 jours. Le sol était saturé d'eau et c'est probablement cela qui a déclenché le glissement de terrain.
L'agence de météorologie, une poignée d'experts sous-équipés dont le salaire n'a pas été payé depuis 6 mois. Ces locaux sont endommagés par un dégât des eaux. Patrick Moussa nous fait donc visiter la station de Lungi, près de l'aéroport, à 45 minutes de bateau.
Et voilà, bienvenue au service des prévisions de l'agence météorologique. Jusqu'à présent, on ne fait que regarder le ciel et dire « il y a des nuages, il fait beau ou il y a de la poussière ». Mais si on avait des équipements en état de marche, des ordinateurs qui fonctionnent, nous aurions pu alerter les habitants de Regen plus tôt, peut-être une semaine ou deux avant le désastre, et les gens auraient pu évacuer la zone. Ce n'est qu'après le désastre que nous avons donné l'alerte. Le jour même, nous n'avions pas Internet et les machines étaient hors service. Le lendemain du drame, nous avons couru à la cellule de crise, mais c'était bien sûr trop tard. C'est pour cela que j'insiste. Nous avons besoin d'un véritable studio de prévision. Nous attendons de fortes pluies cette année encore. Si nous ne l'avons pas, il y aura encore d'autres problèmes. Il faudra que le gouvernement s'engage pour dire aux habitants des bidonvilles d'évacuer ces lieux.
C'est en effet la stratégie adoptée par le gouvernement. John Rogers de l'ONS.
Je vais dans les radios, à la télévision. Nous nous rendons auprès des communautés et nous parlons aux habitants de la vulnérabilité, des risques et du danger de rester habité dans ces zones. C'est aux individus de se prendre en main. La sécurité, c'est d'abord ma responsabilité avant que le gouvernement me dise de quitter les lieux.
Mais pour aller où ? Bien conscient des risques, les principaux concernés demandent une solution pérenne. Samba Gutter, le principal égout à ciel ouvert de Freetown. C'est une véritable rivière de déchets multicolores et odorants qui traverse la ville pour terminer sa course dans le bidonville de Crew Bay. Chaque année, sous l'action des pluies, elle se transforme en torrent d'immondices qui bloque les évacuations et submerge ce quartier dont les urbanistes disent qu'il est le plus vulnérable de l'agglomération. Murray Alicante est le président de la communauté de Crew Bay, 3 écoles et 3 toilettes publiques pour près de 21 000 habitants.
You know, malaria, cholera, diarrhea, all those funny stuff, you know, you do experience them.
Le paludisme, le choléra, les diarrhées, tout ça, tu sais, c'est notre quotidien. Ce n'est pas facile de vivre dans un bidonville, mais les raisons pour lesquelles ces maisons que tu vois sont en si mauvais état, c'est que chaque année, on menace de nous expulser. Les gens ne veulent pas construire en dur s'ils risquent d'être expulsés à tout moment. Si seulement le gouvernement nous laissait construire des logements décents, crois-moi, tu ne verrais plus ces maisons pourrir autour de toi. Nous sommes contre les expulsions. Nous leur disons, venez nous voir, travaillons ensemble. Certains d'entre nous ici ont l'expertise nécessaire. Parlons d'extraire le bidonville des communautés plutôt que d'extraire les communautés du bidonville. C'est ce que nous demandons. Aidez-nous à améliorer nos conditions de vie.
Because let's talk about them removing the slum out of the people, not the people from the slum. That's what we have been advocating. Improve the houses, you understand?
Chez certains, l'arrivée d'un nouvel acteur en politique suscite beaucoup d'espoir. Yvonne Akisoyer vient de prendre ses fonctions comme maire de Freetown.
Des bidonvilles tels que celui-ci, il y en a 72 dans cette petite ville, leur fournir un logement décent est l'une de mes priorités. Maintenant, le problème est que la plupart des taudis se trouvent en bord de mer, sur des sites potentiellement très touristique. Idéalement, il faudrait déplacer les gens. Mais je ne suis pas naïve. Je sais que la tâche ne sera pas facile.
Retour à Regent, où les constructions ont repris de plus belle, à quelques pas de la zone rouge. Ali Kuruma supervise l'un des chantiers.
Là, on fait un sol en béton pour la cuisine.
Vous pensez que c'est prudent de construire ici ?
Pas vraiment. Pendant la saison des pluies, c'est très risqué de travailler ici. Tous les habitants quittent le quartier. Mais c'est comme ça qu'on fait dans ce pays. On se dit qu'on s'arrangera. On essaie encore et on s'en remet à Dieu pour voir si ça arrive à nouveau ou non. Mais nous, nous ne sommes que de simples ouvriers. Si quelqu'un peut donner des conseils au propriétaire, c'est vous. Si le propriétaire dit qu'il faut travailler, on travaille. Parce que vous savez, dans ce pays, ce n'est pas facile, surtout pour les jeunes. Il y a trop de chômage pour qu'on dise quelque chose.
Et si c'était votre maison, vous l'auriez construite ici ?
Non, si c'était chez moi, j'aurais abandonné ce projet car des maisons bien plus solides ont été emportées. Si ça ne tenait qu'à moi, j'abandonnerais cette terre. J'abandonnerais cette maison pour préserver ma vie. On a déjà perdu des milliers de vies par manque de précautions. Tellement de familles, trop de familles sont parties.
Much family go. Freetown, la plaie ouverte et la pluie qui vient, un grand reportage de Carole Valade, réalisation Pierre Chaffanjon.